Je n'ai pas de chevalet parce que je ne suis pas Guillaume Bossoni. Voilà. C'était indiqué sur le programme. La dernière table ronde de la journée sera donc consacrée aux mesures de surveillance des personnes, surveillance individuelle et assignation à résidence. Elle verra débattre deux avocats au Conseil, M. François Pinatel et Mme Claire Vaquier, que nous avons entendus juste avant la pause, et Monsieur le procureur chevalier, procureur de la République à Blois. Juste peut-être un mot d'introduction sur ce dont il est question, c'est-à-dire des mesures privatives ou restrictives de liberté, selon la distinction là encore subtile du Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 66 de la Constitution. Des mesures qui n'ont pas posé problème lorsqu'elles ont été prises en dehors du contexte terroriste. On a effectivement des mesures de privation de liberté par l'administration en matière d'hospitalisation d'office qui n'ont pas posé d'autres problèmes que leur contrôle et effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Serge, une décision du Conseil, de la Cour européenne des droits de l'homme dans une affaire Baudouin contre France a conduit à introduire un contrôle du JLD sur ces mesures, mais le fait que la mesure puisse être prise par une autorité administrative n'avait pas en soi posé de problème. Des mesures qui posent quand même un certain nombre de questions parce que la frontière entre la mesure de sanction, la mesure de sûreté et la mesure de contrôle n'est pas très clairement définie et rejoint complètement le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que la mesure est préventive, destinée à éviter la commission d'une infraction, priver quelqu'un de sa liberté afin qu'il n'utilise pas cette liberté pour commettre une infraction et la mesure serait de nature administrative ou de nature judiciaire. Et puis enfin, le problème que je signalais tout à l'heure, c'est-à-dire la difficulté que pose le contexte terroriste, puisque là encore, l'enchaînement de ces mesures pose quelques difficultés, et une particulièrement sur la succession des mesures, la manière dont vont s'articuler les mesures de nature judiciaire, entre autres lorsqu'une information judiciaire sera ouverte avec un placement en détention provisoire et la succession de cette mesure par une mesure administrative, puisqu'on a vu dans un certain nombre de cas des individus être libérés par le juge judiciaire pour être replacés dans une situation de restriction de liberté, c'est-à-dire soumis à une mesure individuelle de contrôle. Par l'autorité administrative immédiatement après sa sortie. Alors peut-être pour essayer d'articuler le débat, mais comme vous êtes tous les trois extrêmement bien élevés, j'aurais pas grand-chose à faire en termes d'articulation du débat, peut-être les trois temps, la mise en œuvre de la mesure, où vous pourrez nous donner quelques éléments, ensuite les modalités de cette mesure, et puis enfin le contrôle de la mesure, mais tout ça est purement indicatif. Qui veut commencer ?
Pas moi.
D'accord. Alors, François.
Très bien. Je suis d'accord avec vous. Donc, sur la mise en œuvre de la mesure, il y a les conditions, ouais. C'est ça ? Mais avant les conditions, elle se pose quand même la question du contrôle de ces conditions. C'est-à-dire que la difficulté avec ces mesures de surveillance, hein, vous l'avez dit, ce sont des mesures qui sont des mesures restrictives de liberté. Et la vraie problématique avec ce type de mesures, c'est la problématique du juge compétent. C'est-à-dire qu'en réalité, avant même la question des conditions qui sont posées pour pouvoir la prononcer, la vraie problématique que posent ces mesures-là, c'est pourquoi elles ont été soustraites au contrôle du juge judiciaire pour être confiées au juge administratif. La réponse est assez simple, c'est que ce sont des mesures de police administrative. Et le principe en est posé en réalité par le Conseil constitutionnel, qui ne l'avait jamais dit, je crois, aussi clairement que ça, dans sa décision du 25 décembre, je crois, 2015, dans lequel il explique bien cette différence entre les mesures qui sont restrictives de liberté et les mesures qui sont privatives de liberté, c'est-à-dire ce qui relève du droit à la sûreté. Bon. Jusqu'à la 12e heure, on est dans des mesures qui sont restrictives de liberté, et donc celles-là, c'est des mesures de police administrative qui sont soumises au contrôle du juge administratif. À partir de la 13e heure, on rentre dans des mesures qui sont des mesures privatives de liberté soumises au contrôle du juge judiciaire. Ce qui est étonnant, c'est qu'on s'en soit étonné, finalement, de cette décision du Conseil constitutionnel. Pourquoi c'est étonnant qu'on s'en soit étonné ? Bah, tout simplement parce que c'est un mouvement de fond, ce mouvement-là. C'est-à-dire que depuis l'orée des années 2000, on assiste à un rétrécissement constant de la notion de liberté individuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais pas seulement, hein, également dans la jurisprudence du tribunal des conflits. Je vous renvoie notamment à l'évolution de la jurisprudence sur la voie de fait. Il y a très très clairement une volonté de restreindre le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution au seul droit à la sûreté. Et donc, il y a, d'une certaine manière, une acculturation qui s'effectue. C'est-à-dire que toutes ces mesures qui sont spontanément conçues comme des mesures relevant par nature, je dirais, du droit pénal et donc de l'autorité judiciaire, deviennent des mesures qu'on soumet au contrôle du juge administratif parce que la sphère qui est constitutionnellement protégée du juge judiciaire, ça n'est plus en réalité que le droit à la sûreté. Et puis, il faut quand même dire, et vous l'avez évoqué, que l'autorité administrative connaît quand même ces mécanismes depuis longtemps. Il y a effectivement l'hospitalisation d'office, mais j'aurais tendance à dire que l'hospitalisation d'office est une autre inspiration, c'est curatif. Donc c'est moins choquant, c'est spontanément de toute façon moins choquant. Mais le système des assignations à résidence ou des mesures restrictives de liberté, ça existe depuis très longtemps dans le droit des étrangers. Et notamment dans toutes les personnes qu'on entend maintenir sur le territoire français parce qu'il n'y a aucune mesure d'éloignement qui est possible, qui est concrètement possible. On a des exemples très très célèbres. Ce sont des mesures de police administrative, ce sont des assignations à résidence qui sont parfois extrêmement restrictives en termes de liberté, qui ont toujours été confiées au juge administratif. Je ne suis pas sûr que j'ai répondu à votre question, je crois que ce n'était pas ça.
Oui, mais moi, je vais dire un peu la même chose, parce qu'on est d'accord, forcément, on fait le même métier, un peu dans les mêmes conditions. Si on parle aujourd'hui de police administrative et police judiciaire, c'est parce que derrière pèse sur nous cette conception française de la séparation des pouvoirs qui a abouti, on le sait tout à fait par erreur et par une déformation complète de Montesquieu, à la séparation des juridictions. Je pense qu'on ne dirait pas la même chose si on avait le même ordre de juridiction. Et qu'à ce moment-là, on ne serait pas en train de se dire est-ce que c'est administratif ou est-ce que c'est judiciaire. On se dirait il y a une échelle comme ça de trucs. Quand c'est la police des funérailles, on n'a aucun problème, c'est le maire qui a la police des funérailles. Entre guillemets administratif, quand c'est un OPJ qui est en train de faire des opérations à la suite de l'assassinat de Madame Pastor, oui, c'est judiciaire, ça, on n'a pas d'hésitation non plus. En réalité, c'est comme ça, c'est continu, c'est pas discontinu. Et ce qui fait que c'est discontinu chez nous et qu'on cherche des critères, c'est pour déterminer des ordres de compétences entre juridiction administrative et juridiction judiciaire. Et on a vu tout à l'heure, là, au début de l'après-midi, qu'en réalité, le législateur lui-même commence un peu à s'en mêler les pinceaux. Parce que quand il vous dit qu'il y a un recours administratif, puis ensuite, éventuellement, une exception de nullité en matière pénale, je ne sais pas si c'est très bien lui-même ce qu'il a fait. Bon. Voilà. Alors, ça, c'était la première observation. La deuxième observation, du coup, c'est que les choses étant ce qu'elles sont, chaque ordre de juridiction ayant été au demeurant constitutionnellement consacré, n'oublions pas ça aussi, puisque maintenant, chez nous, c'est constitutionnellement consacré, alors on fait avec et on répartit. Alors, on répartit, je suis tout à fait d'accord avec François, c'est parfois entièrement opportuniste. Le juge judiciaire qui a beaucoup protesté, on a cité M. Louvel ce matin, il a beaucoup protesté en disant « qu'est-ce que c'est que ces trucs qu'on nous enlève ?» Et le juge administratif disant « je suis beaucoup mieux que l'autre », sous-entendu, enfin, au moins aussi bien, sous-entendu, mieux. Et enfin, avec cette réflexion, et je vais vous livrer quelque chose qui m'a frappé l'autre jour. Je ne sais pas si vous étiez là quand Nunez est venue nous parler.
Si.
Oui, je vais vous expliquer. Cette réflexion de... Je ne suis pas sûre que le législateur ne se pose pas la question de savoir qui va le mieux, entre guillemets, jouer le jeu. Qui va le mieux des deux juges jouer le jeu. Et la répartition peut se faire un peu en fonction de ça. Et alors, très franchement, en tant que défense... nous savons, je pense, que le Conseil d'État joue parfaitement le jeu. Non, pas toujours sur les questions préjudicielles à l'Europe. Oui, ça, c'est vrai, de temps en temps, il y a des problèmes. Mais en tout cas, là, et la preuve en est de ce que... alors, je déborde un tout petit peu sur la sûreté individuelle, mais c'est quand même des très grosses intrusions. C'est quand vous êtes fiché, toutes ces questions de contrôle des mesures, pour le coup, de police, des fichiers de police... et où le législateur a organisé une procédure non contradictoire, ou en tout cas à peine contradictoire. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait, mais mon associé a fait ça l'autre jour. Quand vous arrivez devant la formation dite spécialisée du Conseil d'État, on vous fouille. Enfin non, palpation peut-être simplement de sécurité. On vous demande d'enlever votre téléphone portable ou vos téléphones portables pour lesquels vous en ayez beaucoup. On vous demande d'abandonner toutes vos affaires. On vous fait rentrer, on vous fait écouter un rapport minimal et là, on vous fait sortir. Voilà. Ça s'appelle participer à une audience. Et c'est pour ça que j'en viens à ce que je disais, qui joue le jeu ? L'autre jour, donc, nous avons eu l'honneur à l'ordre de... Nous avions invité un monsieur qui maintenant est ministre. À savoir M. Laurent Nunez, qui était encore à l'époque le directeur général de la sécurité intérieure, qui est devenu ministre depuis peu de temps. M. Nunez nous a dit qu'il était enchanté du Conseil d'État. Mais alors vraiment enchanté, parce qu'il, entre guillemets, joue le jeu. Et que notamment pour toutes ces procédures de fichiers, le Conseil a parfaitement compris, et nous avons nous compris que le Conseil passait son temps à aller à la direction de la sécurité intérieure pour voir comment il faut, etc., sans nous, hein, mais pour se renseigner, se tuyauter, voir comment ça se passe, etc., et que le Conseil d'État avait parfaitement compris leurs impératifs, et M. Nunez ne demandait qu'une chose, et je vais retomber sur mes pattes, c'est que ce type de procédure, entre guillemets contradictoire, mais qui ne l'est pas, soit appliqué aux assignations à résidence, aux MICAS, comme on dit, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, parce que c'est quand même génial. C'est génial. L'administration qui a son juge, qu'il comprend, qu'il écoute, qu'il entend, et qui a accepté absolument sans aucune difficulté d'organiser ses procédures. Je peux dire des choses sur le juge judiciaire, mais je ne sais pas si le juge judiciaire aurait admis ça comme ça. Et ça nous a frappé. Donc, il y a là, dans les textes de loi, je pense, et je rejoins tout à fait, je pense que je dis François, une espèce de possibilité de choix. Je ne sais pas comment ça va continuer, mais favorisé incontestablement par le Conseil constitutionnel, sa jurisprudence restrictive sur l'article 66, et voilà, et on en est là un peu. Alors, c'est pour ça que je crois quand même que ce dont nous parlons là, c'est quelque chose qui est viscéralement lié à cette dualité juridictionnelle, parce que, effectivement, ça, je pense que ça n'existerait pas la même, ça serait pas la même chose. En pratique, en réalité, on sait très bien ce qui se passe. Vous avez des mesures. Quand c'est judiciaire, on sait très bien qu'on a le critère, judiciaire proprement dit, on sait très bien qu'on a le critère de infraction qui se produit, qui s'est produite, etc. Quand c'est avant, sans infraction, on a besoin de poser des critères et d'intrusion. Paradoxalement, ça paraît moins fort et en même temps, ça l'est plus puisqu'on va faire des intrusions qui ne sont pas motivées par un critère assez objectif de la commission d'infraction. Pour en revenir, et je vais ensuite repasser la parole, mais on a parlé ce matin du cas de M. P, que j'ai défendu, effectivement. M. P a fait l'objet de mesures de procédure judiciaire, notamment pour consultation de sites djihadistes, QPC au passage, annulation de l'infraction, et puis ensuite de mesures d'assignation à résidence, état d'urgence, et ensuite il a été un des, il n'y en avait pas beaucoup, hein, des mi-cassés post-état d'urgence. Il a été l'un des derniers mi-cassés parce que M. P était considéré par le ministère de l'Intérieur comme hyper dangereux, hyper dangereux, hyper dangereux. Le résultat, c'est que M. P, il a fallu arrêter parce que c'est limité dans le temps, heureusement. À un moment, la loi dit un an maximum, donc ils ont arrêté. M. P n'a toujours rien fait à ma connaissance. Je me demande s'il n'est pas toujours surveillé, à vrai dire. Parce que ce qui est assez intéressant aussi, il faut bien comprendre ce qui se passe, c'est que quand j'arrivais devant le juge des référés en disant « Mais enfin, écoutez, excusez-moi, mais là, vous savez, la loi exige qu'il y ait des éléments nouveaux à un moment. C'est quoi les éléments nouveaux ?»« Ah oui, mais dans son ordinateur et dans ses comptes Facebook. » Alors je dis à mon client « Vous avez des comptes Facebook avec des pseudonymes ?» Mais il me dit « Oui, mais en principe, ces comptes Facebook... » Ils sont clos, j'ai juste un petit cercle de copains. Le cercle de copains, apparemment, le ministère de l'Intérieur en fait partie. Et donc, autant vous dire que, bon, tout ça, c'est un peu, un petit peu en dehors des règles, en bref. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où vous vous dites, l'individu est incontestablement original, tient des propos dont de temps en temps on se dit bon d'accord, finalement il vient pas à l'audience, c'est peut-être aussi bien, je vais tenir les propos un peu édulcorés. Mais est-ce que pour autant il va passer à l'acte ? Et néanmoins, il a été pendant deux ans et demi, constamment sous surveillance, avec, sous état d'urgence, trois fois par semaine au commissariat, trois fois par jour au commissariat. C'est là où il est allé à la piscine de l'autre côté de la ligne communale d'Angers. Trois fois par jour au commissariat, et après, sous la MICAS, on m'a dit, mais c'est beaucoup mieux. La limite, c'est la commune d'Angers, et il n'y va qu'une fois par jour au commissariat, 2 heures de l'après-midi, en pleine journée. C'est formidable. Voilà. Et il y a un moment où, effectivement, on se dit, ça, c'est du stress, c'est de l'angoisse. Et pour finir, pour vous dire quelque chose aussi, que nous a dit M. Nunez l'autre jour, la préoccupation principale de la police à l'heure actuelle, c'est pas le terrorisme. La préoccupation principale de la sécurité intérieure à l'heure actuelle, c'est pas le terrorisme. Le terrorisme, ils savent. C'est les attaques informatiques. Hein ? Et en fait, leur préoccupation principale à l'heure actuelle sont les fichiers et les attaques informatiques. Et il nous a prononcé le mot de la Russie combien de fois ? Une fois toutes les 5 minutes ?
Oui, c'est ça, à peu près. Ouais.
Voilà. Voilà. C'est ce que je crois que je suis aussi hors sujet que François.
Bon, moi, je savais qu'il fallait que je parle le dernier, vous voyez, parce que le sujet... Voilà, voilà. Non, mais moi, je vais vous dire, ces histoires de terrorisme, ça a l'avantage de faire tomber les masques. Parce que entre Sauvé et Louvel, c'est vraiment un concours de zizi dans la cour de récré, vous comprenez ?
C'est joliment dit.
Eh oui, mais c'est toujours entre gars. Vous avez vu qu'il n'y a pas d'histoire de dame, maître. C'est toujours des histoires de gars. Alors, il y en a un qui réinvente l'eau chaude. Il nous dit, mes enfants, vous êtes tous des étudiants, on va le faire ensemble, faire un petit cours, un petit TD. Je vous propose de lire l'article 66 de la Constitution. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que vous êtes, quand même, vous êtes en quelle année ? À peu près. Bon, c'est très bien. L'article 66 de la Constitution dit ceci. Nul ne peut être arbitrairement détenu. Point. Donc ça veut dire... Vous comprenez ça ? Vous comprenez ? Vous l'admettez. Nul ne peut être arbitrairement détenu. Point. L'autre... Comment ? Point, voilà. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est le même article, on est d'accord. Hein. Et c'est pour ça. Mais après, si on le décortique trop, on ne comprend plus. L'autorité judiciaire... Écoutez. L'autorité judiciaire, virgule... gardienne de la liberté individuelle, il n'y a pas de S, virgule, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi, point. Voilà. Et là, pendant 30 ans, on s'est dit, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de liberté individuelle ? Alors, vous avez eu les judiciaires, moi, qui a dit, mais moi, mes pauvres enfants, sans moi, vous êtes morts. Donc... la liberté individuelle, c'est les libertés individuelles, c'est tout. C'est, voilà, vous êtes emmerdés, venez me voir. Bon. Et le Conseil constitutionnel, dans son immense gentillesse, un temps, a joué cette conception extensive de l'article 66. Mais peut-être que le Conseil constitutionnel a oublié de lire l'article 66. C'était quand même pas compliqué de se dire que peut-être cet article 66, dans l'idée du constituant 58... c'était peut-être de le limiter tout simplement à ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il est aujourd'hui en tous les cas. C'est-à-dire au fait que c'est une espèce de principe d'habeas corpus, quand vous êtes détenu, retenu, contraint dans votre liberté, venez voir le judiciaire, c'est votre juge naturel. Point. Point. Non, mais point. Et donc moi, je ne suis pas Bertrand, je suis Jean-Marc, du coup. Voilà. Je suis plutôt Sauvé, qui rappelle simplement le fait que, oui, il y a deux ordres judiciaires en France, tant mieux, c'est le sujet, je crois. Et tant mieux que ça continue, parce que plus on est à se targuer d'être des protecteurs ou des gardiens de là ou des libertés individuelles, et bien mieux cette liberté, me semble-t-il, est protégée. Et je vois pas pourquoi nous, judiciaires, on serait plus forts que les autres. D'ailleurs, j'ai des exemples où on est moins forts. Et j'ai plutôt des exemples où le Conseil d'État, les juridictions administratives, ont fait la démonstration, que le seul juge judiciaire n'est pas le juge par lequel tout devrait passer. Et le juge judiciaire, eh ben, chaque jour, ou chaque matin, ou chaque soir, comme il veut, il relit son article 66, voilà. Il le médite. Alors après, il lit... ce qu'a dit le tribunal des conflits, parce que le tribunal des conflits, c'est lui qui nous arbitre. Il dit, s'il y a une voie de fait, voilà, je te dis ce que c'est qu'une voie de fait, c'est toi ou pas toi. Ah, c'est génial. Alors quand même, ordre juridique, vous le saviez, ça. Vous connaissez l'existence de ce fameux tribunal des conflits. Il y a deux arrêts à lire, après c'est fini, donc c'est pas compliqué. Bon. Ben, il y en a un, l'arrêt E4, hein, c'est ça, c'est le 24-34 recueil le bon. Hein. Eh bien, il dit, par exemple, qu'il a détaché la liberté d'aller et venir du bloc de l'article 66 pour dire que c'était plutôt du 2-4 de la DDHC. Ben, l'affaire était dite, le Conseil d'État l'a dit, et après, le Conseil constitutionnel, 30 ans après, a finalement, effectivement, lui aussi dit que ben, si on considérait que l'article 66 se contentait d'être dans le domaine des privations des libertés, garde à vue, détention, rétention, hospitalisation sans consentement, donc voilà une restriction de l'intervention du judiciaire, non pas pour réduire le fait qu'on soit gardien de la liberté individuelle, simplement pour dire, attention, vous avez un autre ordre de juridiction qui fait parfaitement le travail. À mon avis, d'ailleurs, dans ces conditions de fonctionnement, de nomination, on ne se pose jamais la question. On parle toujours de, il faudrait libérer ces pauvres juges judiciaires, mais les TA et les CA sont beaucoup plus indépendantes que nous autres judiciaires, on est bien d'accord. Par exemple, si je prends le nerf de la guerre, ouais, si je prends le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Aujourd'hui, on dit, allez, mes enfants, on va faire une loi sur 5 ans, on a plus 460 millions, comme on va construire 7000 places de prison, on sera encore en débit, je vous le dis tout de suite, hein, parce que pas besoin d'être grand économe. Bon, on dit, vous allez voir, ça va être génial et tout. Bon. Sauf que nous, là, en ce moment, vous comprenez, en ce moment, on est en train de ne pas remplacer ceux qui partent en retraite. Ça, c'est de la gestion. Mais ce n'est pas une gestion neutre pour les services judiciaires, c'est une gestion délibérée. Qu'un temps on a assuré, que maintenant on fait croire qu'on n'assume plus, mais le résultat est là. C'est-à-dire que pour fonctionner, on a besoin de magistrats judiciaires. Or, on en a, enfin, pas de moins en moins, mais en tout cas, on n'arrive même pas à remplacer maintenant ceux qui partent à la retraite. Ça veut dire que, vous comprenez que, heureusement que notre gardiennage se limite à la seule liberté individuelle de l'article 66, au moins on saura peut-être encore faire. Tandis que le Conseil d'État, les tribunaux administratifs, les cours administratifs d'appel, j'ai quelques amis et collègues dans ces juridictions-là, se plaignent, évidemment, parce qu'un juge, qu'il soit administratif ou judiciaire, ou financier, peut-être pas financier, mais judiciaire, il se plaint d'abord, bon, mais eux, ils se plaignent moins que nous, j'ai l'impression, parce que c'est leur vice-président, effectivement, qui fait le budget, qui alloue des crédits, on a besoin d'agrafeuses, figurez-vous qu'ils en achètent, ce qui est quand même un truc super, bon. Et donc, tout ça pour dire que ce que je comprends du fonctionnement de ces deux ordres de justice, administrative et judiciaire, ça veut dire que nous, il faut qu'on arrête d'être les enfants de Bertrand Louvel. Moi, je ne m'y reconnais pas du tout. Je dis simplement que, avec le préfet, alors, tout à l'heure, j'ai entendu, on parle savamment des relations préfet-proc, mais moi, je suis proc. Alors, je peux vous dire ce que c'est au quotidien avec un préfet. J'en ai connu deux, dans des périodes compliquées, dans des périodes judiciaires compliquées. Un préfet, c'est comme tout préfet, il a peur de son ombre. Il est hyper content d'avoir un procureur très présent à ses côtés. Alors on va dire, alors les collègues disent, oui mais vous comprenez, en réunion d'ordre public, ils parlent des affaires judiciaires. Et on s'en fout. Que le préfet sache que sur commission rogatoire, un tel a été interpellé pour des stupes. Qu'est-ce qu'il en fait de son information, le préfet? Il l'a, il se couche avec, et le soir, il est content de savoir que Jean-Jacques s'est fait interpeller pour une affaire de stupes en judiciaire. Et alors? Non, l'intérêt, c'est surtout que moi, je n'ai pas à dire non au préfet. C'est surtout lui qui a à me dire oui. C'est-à-dire que ces affaires de terrorisme ont mis en lumière, mais j'ai lu dans Le Monde d'avant-hier là, que ça continue entre la DGSI, DGSE, DG ceci, DG cela, à dysfonctionner totalement. Tant qu'on sera dans le concours du plus grand dissident dans la cour de récré, on continuera à faire n'importe quoi. En matière terroriste, il y a un truc invraisemblable aujourd'hui. On dit qu'on fait la guerre. Enfin, c'était le catalan qui disait ça, mais on fait la guerre. Bon. On fait la guerre, sauf qu'on fait la guerre avec un demi-bras. C'est-à-dire que c'est la guerre de la SDAT et de la police. Mais les gendarmes, ils n'ont pas le droit de faire la guerre. Donc, le mardi matin, quand on se réunit avec le préfet, ceux qui parlent, c'est les SDRT, qui nous remplit tous les fichiers là, de nos futurs terroristes. Et les gendarmes, ils n'ont pas le droit au chapitre. Ils sont là, ils disent rien. Pourquoi ils disent rien? Parce qu'ils n'ont rien à dire. Parce que la surveillance, le renseignement territorial, c'est la police. Mais la police, il couvre, dans mon département, deux dixièmes du département. Donc, c'est-à-dire que si j'étais futur terroriste, moi, je me mets à Saint-Laurent-Nouan, et là, je suis peinard. C'est-à-dire que je peux commencer à préparer tout mon... Non, mais la DDSP ne viendra jamais là-bas. Or, le gendarme, on lui dit, t'es bien gentil, gendarme, mais tu restes à ta place, c'est-à-dire que tu fais de la circulation routière le matin, de la PJ l'après-midi, et le soir, tu ne fais pas de renseignement territorial. Donc, je m'égare un peu moi aussi, du coup, mais c'est un sujet passionnant parce que ça veut dire qu'au-delà des postures, il faudra en sortir de ces postures. Moi, ce que je constate de mon petit niveau, c'est qu'on a un juge administratif qui, dans les libertés dont il est le gardien, agit plutôt bien. Et là, je reprendrai. Alors, j'avais ressorti une communication de M. Sauvé lors d'un colloque où c'était justement très exactement notre sujet. Il reprenait un certain nombre de chiffres qui étaient très parlants sur le fait qu'en matière, par exemple, de police des étrangers, en matière de juge administratif, sur l'application des différentes lois prorogeant l'état d'urgence, il y a à peu près, je ne sais plus, mais en fait, 34 ou 35% des décisions qui allaient contre les décisions prises. Donc, ah bah ouais, mais c'est, qu'est-ce que vous voulez ? C'est Monsieur Sauvé qui a dit ça. Hein, moi, je d'accord, bah, il faudra lui dire qu'il dit des bêtises. Mais au-delà de tout ça, moi, je crois qu'il faut maintenant sortir de ces postures-là. Le juge judiciaire, il faut qu'il arrête de revendiquer ce qu'il n'est de toute façon pas capable d'assumer en vrai, hein, puisqu'il n'a jamais le temps de rien faire, qu'il veut toujours se recentrer sur son cœur de métier. Et donc, moi, je pense que cette double juridiction, elle est parfaitement adaptée. Elle ne fait que renforcer la sauvegarde des intérêts des uns et des autres. Et moi, j'en suis parfaitement, pleinement satisfait.
Continuer dans cette sorte
que
de
je peux juste
chaos créatif.
Un tout petit mot sur cette question-là. Sur la question du juge, il n'est évidemment pas question de dire, d'ailleurs c'est assez curieux, puisque finalement c'est le juge judiciaire qui prend la défense du juge administratif, mais il n'est pas du tout question de dire que le juge administratif n'est pas compétent et qu'il ne fait pas bien le travail. Ce n'est pas ça du tout la question. La question, elle est double. Elle est d'abord la question de cette espèce d'opportunisme, effectivement, comme le disait Claire, c'est-à-dire ce choix du juge. Et du juge bienveillant qui pose quand même constitutionnellement un problème. Et l'autre élément, c'est un problème de culture. Et moi, j'ai été extrêmement frappé. Enfin, il se trouvait que j'étais l'avocat de permanence au Conseil d'État lorsque l'état d'urgence a été déclenché. Donc, je l'ai vécu là, comme ça, en direct. Moi, j'ai été extrêmement frappé par le fait que tous les gens qui arrivaient à ce moment-là, arrivaient avec leur avocat généralement pénaliste, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un contentieux qui a été immédiatement pris d'assaut par les avocats pénalistes, alors qu'on aurait pu s'attendre, puisque c'était des mesures de police administrative, que ce soit des spécialistes de droit public qui s'occupent de ça. Non, c'était des pénalistes. Et ils débarquaient, donc bon, la permanence d'urgence, pour les étudiants qui ne savent pas, c'est l'avocat au Conseil d'État qui est là qui prend le dossier avec son correspondant avocat au barreau, et on essaye de défendre ensemble les gens qui saisissent le Conseil d'État, sachant que nous avons en principe un monopole de la prise de parole à la barre. Bon. Ce qui me frappait, moi, vraiment, c'était le fait que l'avocat pénaliste, il était complètement hors sujet de la grille de contrôle du juge administratif, mais complètement hors sujet. C'est-à-dire qu'il n'intégrait même pas l'idée qu'il s'agissait de mesures de police administrative, tellement, en fait, il était dans sa culture de la mesure coercitive. Alors, on nous invoquait le principe de la présomption d'innocence, qui, évidemment, n'avait absolument rien à voir avec le sujet, puisqu'on était dans la mesure de police préventive. Mais c'était très important. Pourquoi ? Parce que la présomption d'innocence, ça règle le problème de la charge de la preuve. Et je crois que ça a déjà été dit à plusieurs reprises. Les audiences de référé liberté devant le Conseil d'État, parce que moi, je n'ai connu que ça, sur les assignations à résidence et ensuite les mesures individuelles de contrôle et de surveillance, en réalité, on ne parle même plus des conditions aujourd'hui pour lesquelles on prononce la mesure. Jamais, 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 on a examiné ces conditions. La seule chose qu'on examine, c'est un contrôle de proportionnalité de l'atteinte qui est portée à la liberté d'aller et venir au regard de ce qui figure dans là où les notes blanches, qui ne sont d'ailleurs pour la plupart d'entre elles pas complètes, note blanche donc, qui relate un certain nombre d'événements qui sont non datés, non signés, et le travail de l'avocat consiste dans 90% des cas à essayer de démonter ou de décrédibiliser la note blanche par tous les moyens dont il peut disposer qui sont extrêmement compliqués, et c'est ça finalement le contentieux de ces mesures. Je ne suis pas certain que devant le juge judiciaire la culture aurait été celle-là. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est vraiment dans une culture du contrôle administratif, c'est-à-dire la culture finalement du recours pour excès de pouvoir, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont, alors qu'on touche à des mesures qui sont à minima extrêmement restrictives de la liberté. Ça crée un hiatus en termes de contrôle. Et dans l'exercice des droits de la défense, ça crée également un hiatus. Alors je suis d'accord avec vous, il y a des décisions magnifiques, moi j'en ai eu une ou deux d'ailleurs très très belles, dans lesquelles notamment sur le contrôle de proportionnalité, non pas sur le principe de la mesure, mais sur les modalités d'exécution de la mesure, il a fait des choses très créatives, le Conseil d'État. Hein. On a fait réouvrir un commissariat de police qui était fermé depuis 20 ans, parce qu'il y avait, enfin c'était une jeune femme, 4 pointages par jour, elle vivait, je crois, à Montlhéry, et le seul commissariat disponible c'était Longjumeau, une heure et demie à chaque fois de RER pour aller pointer, trois enfants, dont un de 2 ans. La fille, elle passait sa vie dans le RER, c'était absolument impossible. Le Conseil d'État a fait injonction à l'administration de réouvrir le commissariat de quartier qui était fermé depuis 20 ans pour qu'elle puisse pointer. Donc ça, c'était effectivement des décisions qui sont des décisions très créatrices. Mais c'est toujours dans un angle administratif, alors que ce dont on parle, c'est quand même essentiellement de mesures qui sont restrictives de liberté, dans laquelle il me semble que c'est à l'administration de faire la preuve, et non pas à celui qui fait l'objet de la mesure de décrédibiliser un document dont il ignore finalement les tenants et les aboutissants. C'est ça qui nous pose problème.
D'ailleurs, il faut savoir qu'à propos des notes blanches, ce n'est pas au moment de l'état d'urgence que le Conseil d'État les a validées.
Non,
il les a validées à propos de l'affaire Diouri.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire, c'était quand ? C'était il y a longtemps, c'était opposant à Hassan II, où tout à coup, pour la première fois, le tribunal administratif de Paris avait annulé un arrêté d'expulsion en urgence absolue. En urgence absolue, c'était la grille qui existait à l'époque, en disant « j'ai rien dans le dossier ». Alors le ministère a fait appel, et puis il a produit pour la première fois des notes blanches. Ça doit se passer dans les années 90. Et le Conseil a pris la décision en assemblée du contentieux, c'est-à-dire grand machin, pour valider les notes blanches. Donc il faut savoir que ce n'est pas à propos de l'état d'urgence que les notes blanches ont été validées. Ça, c'est très vieux. Les notes blanches sont susceptibles de faire la preuve. Mais quand vous avez face à vous une note blanche, c'est-à-dire que c'est vraiment... Enfin, ce n'est pas blanc parce que c'est écrit, mais c'est un papier blanc...
C'est très étonnant.
Est-ce qu'on peut la revoir parce que...
Sur lequel il y a écrit « Monsieur Machin fait ceci, fait cela », etc. Il n'y a rien derrière, rien à côté, on ne sait pas qui a écrit, on ne sait pas d'où ça sort. C'est très queue. Hein.
Donc, une note blanche, conseil de compagne.
Oui. Et alors, c'est vrai, on l'a...
C'est vrai, on l'a...
J'en avais une qu'on avait dit.
On ne les met pas en détention, mais...
Elle était dans le dossier...
Enfin, c'est très lourd, hein.
Oui, bien sûr. Non.
C'était sur le
contrôle, comme dit François, le contrôle policier, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par jour, vous pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Et il ne faut pas oublier que la nuit, vous n'avez pas le droit de sortir. Donc, quand même. Bon, ils ne sont pas en prison, mais...
Ouais. Non, mais une note blanche, c'est comme un PV, sauf que le PV, avant, vous avez fait à le, et puis c'est tout. Non, mais la note blanche...
Non, mais vous avez l'auteur du PV.
Attendez, mais ça dépend, mais
vous avez l'auteur, vous avez une date.
Moi, j'envoie toutes les semaines des notes blanches et RT.
Voilà, une note blanche, c'est ça.
Non.
Alors, la note blanche, elle pose
deux problèmes. Le premier problème... C'est,
oui. Alors, et moins bien écrite. Hein. Moi, j'ai eu
mais celles-là, elles étaient bien écrites parce qu'elles étaient produites. Mais c'est qu'effectivement, le premier problème de la note blanche,
c'est
que ça n'est pas le travail du renseignement, puisque par définition, le travail du renseignement est classifié. Donc, les services de renseignement vont produire des notes à partir de leur travail, contenant les éléments qui sont susceptibles d'être révélés et qui ne sont pas classifiés. Du coup, c'est le deuxième problème que relevait très bien M. Lacaille ce matin, c'est-à-dire qu'il y a une présomption de la part du juge que l'administration en dit moins que ce dont elle dispose effectivement. Ce qui fait que quand la note blanche contient effectivement tout ce que l'administration a contre la personne et tout ce dont elle dispose, eh bien néanmoins, le juge présumera que l'administration en a beaucoup plus.
Mais plus que ça, c'est-à-dire que l'administration le dit. Madame l'Église le dit systématiquement. Oui, mais elle est là tous les jours. Enfin, elle le dit.
Madame l'Église est la représentante du ministère de l'Intérieur qui traite ce type d'affaires au Conseil d'État. Nous sommes tous opposés à Madame l'Église un jour ou un autre dans notre vie. Et
c'est un adversaire redoutable.
Redoutable.
Insubmersible. Désarçonné par vous.
Mais vous comprenez qu'en fait, on est dans notre sujet. Parce qu'on a dit, bon, une fois qu'on a déterminé qu'effectivement, la loi a dit c'est le juge administratif, pour toutes ces raisons que nous avons exprimées. Je fais une parenthèse, je trouve scandaleux que le juge judiciaire n'ait pas de moyens et qu'on ne lui remplace pas les ordinateurs qui plantent. Hein. Moi, personnellement, j'ai été...
Mal... Une fois qu'on l'a dit, on le vit. Hein.
Ben, oui, je sais bien. Mais bon, non, mais ça, c'est une parenthèse. Ouais. Mais, vous comprenez bien qu'en réalité, dans quelles conditions ces mesures sont-elles prises? C'est-à-dire des mesures, on parle bien de police administrative, parce que les mesures de détention judiciaire, ça ne se pose même pas. C'est balisé, il y a des recours, on sait comment on fait, on peut même récuser le JLD depuis 15 jours. Donc, bon, voilà, tout ça, on peut faire beaucoup de choses. Mais les mesures de police administrative, ça, et c'est fondé, c'est pris sur des dossiers comme ça. Quand vous dites comment est-ce qu'on les prend, c'est pris sur des dossiers comme ça. Et là, ça laisse un peu... Alors, on ne peut pas nier le travail des services, on ne peut pas nier le fait qu'il faut effectivement sans doute qu'on ne sache pas que dans les 150 personnes, il y avait sans doute des gens qui n'étaient pas...
Est-ce qu'on peut voir la deuxième page ? Parce que la deuxième page, il y a une Mais... action symbolique dont les modalités restent à définir au soutien de la ZAD.
C'est parfait,
permis
ça.
D'interdire aux membres des groupes écologistes radicaux de venir à Paris pendant la COP21. C'est-à-dire le risque d'une action symbolique dont les modalités restent à définir.
Et... Alors c'est ça qui est...
Mais encore, il y a un risque, là.
Et quand vous avez des individus, des personnes qui, effectivement, sont passées de l'état d'urgence dans la MICAS pendant un certain... Alors, il y en a... il faut relativiser, il n'y a pas des masses. À la fin, j'avais demandé à Mme Léglise, qui me donnait le renseignement difficilement, mais, ça fait combien de personnes, Mme Léglise ? À la fin, bon, ça faisait... Dans les MICAS, ça faisait 15-20 personnes... Vous allez me dire, c'est pas énorme. C'est pas énorme.
À mon avis, il y a plus de gens en détention provisoire et inadmissible
certainement.
Que ces 15-là.
Non, mais certainement.
D'accord.
Possible, très possible.
Alors, vrai. Je vais réuser de mon pouvoir de président parce que le temps passe. J'aurais une question, puisque vous avez tous évoqué le tribunal des conflits. On est confronté à des mesures dont on a vu tout à l'heure que les conditions de mise en œuvre de la MICAS rejoignent celles de l'association de malfaiteurs terroristes, c'est-à-dire qu'on est complètement dans un cadre dans lequel les deux compétences peuvent être envisagées. Pourquoi ? Est-ce que le tribunal des conflits n'a jamais été saisi de se prononcer sur le partage des compétences ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a juste pas de revendication et auquel cas on rejoindrait ce qui était dit tout à l'heure sur le fait que finalement ça arrange bien les deux juges d'avoir cette répartition ? Pourquoi est-ce qu'à aucun moment il n'a été envisagé d'élever un conflit sur la qualification d'une mesure ?
Mais tout simplement parce qu'elles sont dans des... Moi, j'aurais tendance à dire qu'elles sont dans des tunnels parallèles et qui ne se rejoignent jamais.
Ah, mais ils se rejoignent constamment ou elles se succèdent dans le temps ?
Ah, elles se succèdent dans le temps. Mais ce sont deux régimes qui sont assez définis. La question de la compétence et de l'ordre... en tout cas, je ne sais pas vous, Claire, mais moi, je ne me suis jamais tellement posé la question. Ça m'a toujours paru extrêmement clair. J'ai toujours su qu'elle était mon juge. Parce que je trouve que ça, pour le coup, la loi est extrêmement claire sur la question.
Moi, je pense aussi que c'est ça.
Là où ça pose difficulté, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est dans l'articulation entre les décisions qui peuvent être prises par le juge administratif dans le cadre des mesures de police administrative et notamment des mesures de surveillance individuelle et les décisions qui auraient été prononcées par le juge pénal, soit dans la... j'ai eu deux dossiers où ça a été très, très...
Vous êtes à Paris.
C'était à Paris, c'était au Conseil d'État. J'ai eu une affaire dans laquelle la mesure de contrôle... Non, c'était une mesure d'assignation à résidence empêchait concrètement la mise en œuvre du contrôle judiciaire puisque c'était assorti d'une interdiction de travailler alors que le contrôle judiciaire imposait... Ça faisait partie des conditions du contrôle de travail. Donc là, on a eu une difficulté et j'ai eu un juge administratif qui a considéré que ça n'était pas manifestement illégal au sens de l'article L521-2, de considérer que la mesure d'assignation en résidence faisait échec au contrôle judiciaire, ce n'était pas un problème. Et puis j'ai eu un deuxième dossier dans lequel la mesure d'assignation en résidence, cette fois, faisait échec à l'aménagement de la peine avec bracelet électronique parce que c'était incompatible avec les obligations de pointage. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est le seul cas dans lequel il y a une confrontation, je dirais, directe entre l'autorité judiciaire et le juge administratif. Et surtout, il y a une forme d'ingérence du juge administratif dans la décision du juge judiciaire, c'est-à-dire en réalité, il y a une violation du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Mais en ce qui concerne le prononcé de la mesure, c'est-à-dire et le contrôle de la mesure, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne vois pas où est la difficulté.
C'est quand l'administration va reprendre une MICAS en sortant, c'est le juge administratif qui devient compétent pour la contrôler, alors même que, comme vous venez de le dire, il y a ingérence.
Mais en principe, il ne prend pas sa MICAS sur le même fondement.
Non.
En principe, ça, on peut contester la MICAS, mais quand l'individu sort de prison, il a pu juger sa peine. Si le juge administratif prend à ce moment-là une MICAS, c'est pas du tout, a priori, en tout cas, il ne peut pas. C'est pas pour des raisons tenant à la procédure judiciaire qui vient d'être purgée. C'est à des raisons tenant, soi-disant, à la sûreté du territoire et à la nécessité d'assurer, de s'assurer, d'assurer la surveillance de la personne. Non, moi je pense que, je pense, je suis comme François, je pense que les textes sont ainsi faits qu'il n'y a pas de problème d'interprétation tel que le tribunal des conflits doit être saisi. En revanche, là où il pourrait y avoir, mais ça c'est à nous faire preuve un peu d'imagination, parce que encore une fois, tout à l'heure, ça m'a frappé cette histoire de décision préfectorale qui peut être soumise au juge administratif, puis qui ensuite peut faire l'objet d'une requête en nullité en matière pénale. Là, on pourrait peut-être faire un petit peu d'imagination quand on aura un dossier qui s'y prête pour se dire, tiens, mais voilà, moi j'ai eu une petite procédure administrative, puis je vais soulever la nullité au point de vue pénal. Voilà, ça peut venir. Mais ça ne relèvera pas du tribunal des conflits. Je ne crois pas. Si la Cour de cassation me répond non, l'acte est détachable de la procédure pénale, je ne vais pas le contrôler, elle me répondra non, je ne vais pas le contrôler.
Moi, la seule fois que j'ai vu fonctionner le truc, parce que les MICAS, c'est le ministère de l'Intérieur, on est d'accord, hein, c'est pas le préfet. Oui. Et là, le préfet m'avait saisi, puisqu'il y avait un individu dans le Loir-et-Cher qui pouvait faire l'objet d'une telle mesure, mais il était déjà sous contrôle judiciaire. Là, c'est préalable, évidemment, à la mise en œuvre de la mesure. Oui. Ça s'est fait très naturellement, il n'y a eu aucune difficulté.
Mais tant mieux, ça veut dire que si...
Oui, mais tant mieux, terrain, mais c'est parce que... Non, mais parce qu'on n'est pas non plus trop débiles, d'une part, que d'autre part, les textes le prévoient, et donc le préfet comme moi, on reste des grands légalistes. C'est-à-dire que quand ça se passe dans un esprit un peu d'ouverture, et un esprit surtout de se dire, ce garçon-là, d'une manière ou d'une autre, on s'y intéresse, donc il est une cible quand même... Parce que... On n'est pas non plus, c'est bien gentil tout ça, mais il y a quand même des gens qui meurent d'attentats dans.
Non, mais voilà. Bien sûr,
non, mais donc il faut peut-être, et je trouve que la loi du 31 octobre 2017, elle est quand même pas mal cette loi. On peut peut-être en parler deux secondes. Moi, je la trouve quand même rédigée de manière un peu intelligente. Voilà, je le dis.
Alors moi, ce que j'ai toujours pensé là-dessus, c'est que effectivement, dans le contexte actuel, ça pose pas de difficultés ou ça n'en pose qu'à la marge. L'énorme problème avec la loi de 2017, c'est le fait d'avoir inscrit dans le marbre des choses qui relevaient d'un régime qui était par essence un régime provisoire, avec un risque, alors qui est peut-être théorique, complètement idiot, etc., mais enfin qui quand même existe, qui est le fait qu'un jour, ce régime juridique inscrit dans le marbre ne soit plus utilisé tel qu'il est aujourd'hui dans un état de droit qui fonctionne bien et dont on râle, voilà, parce qu'on est français. Mais
ce point quand même que les mesures sont temporaires, c'est-à-dire qu'il y a une clause sunset dans la loi.
Oui, tout à fait. Oui, mais c'est d'ailleurs c'est d'une grande prudence.
Non seulement elles sont temporaires, mais en plus elles sont largement restrictives par rapport au droit antérieur. Non, mais c'est quand même pas mal. Je veux dire que Oui, d'accord. Non, mais là, on est un tout petit peu dans l'urgence, à mon avis, hein, parce que soit on fait croire que tout va bien, soit on fait croire que demain, ça peut de nouveau péter. Hein. Donc, moi, je dis que dans ce contexte-là, le législateur n'a pas été trop mauvais, à la fois pour combiner des mesures de police administrative qui ne me choquent pas, parce que, par exemple, là, on a fait les rendez-vous de l'histoire à Blois. Vous voyez, ce truc, vu de loin, c'est pas mal.
Oui, c'est bien.
Bon, il y avait toute une place, la place de la République, là où est le TGI, c'était sous le coup d'un périmètre de protection, par exemple. Bon, ça s'est bien passé, hein, je vous rassure. Il n'y a pas eu d'émeute, il n'y a pas eu de truc. Non, mais ça veut dire que...
Vous avez raison, bien sûr.
Parce que ça a été...
On s'éloigne.
C'est des mesures de police administrative, là, vous voulez qu'on en parle.
On parle des mesures de surveillance.
Mais il n'y a pas que celle-là, mais on peut...
Non, mais justement, sur la rédaction de la loi, parce qu'on a d'autres questions et le temps file. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi qui prévoit une seule série de conditions pour trois régimes différents ? Puisque c'est aussi un des points particuliers dans cette MICAS, où les conditions sont les mêmes, mais le ministre peut choisir entre trois régimes différents, plus ou moins attentatoires, ou restrictif de la liberté.
C'est une affaire de contrôle de proportionnalité de la mesure. De ce point de vue-là, je trouve que c'est très administrativiste comme façon de concevoir les choses. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier que la culture du juge administratif, c'est la culture de la théorie du bilan et donc de la balance permanente des intérêts en présence. Donc il y a une condition générale qui permet de prononcer la mesure. Il y a des mesures qui sont prononçables et qui feront l'objet d'un contrôle du juge sous l'angle de cette proportionnalité, cette théorie de la balance. Donc si finalement, c'est un peu le même système finalement que la sanction disciplinaire, hein, si finalement la menace est disproportionnée au regard de la mesure qui a été prise, eh ben, elle fera l'objet d'une annulation. Voilà. C'est ça, en fait, l'esprit du texte.
Mais il faut bien comprendre que l'obsession, parce qu'on la voit, l'obsession du ministère de l'Intérieur, et c'est pour ça que, en fait, cette loi, par exemple, elle est parfaitement acceptée, en réalité, je pense, c'est ils ont une réelle obsession, c'est d'essayer de définir à l'avance, c'est un peu, comment ça s'appelle ce film-là voilà, ouais. Le passage à l'acte. En fait, c'est ça. Alors, c'est très, très difficile. Comment voulez-vous définir un passage à l'acte voilà. On sait que ce n'est pas possible et que ce n'est pas forcément ceux qu'on surveille parce qu'ils crient tous les jours « Allah Akbar » en entrant dans un magasin, que c'est eux qui vont un jour entrer dans un magasin avec un couteau ou un flingue. Mais c'est l'obsession du ministère. Là, je trouve que cette mesure ces mesures de surveillance individuelle, de rétention, de diminution de liberté, même si, encore une fois, on ne les enferme pas entre quatre murs, mais voilà, c'est ça. Je voudrais bien empêcher ces gaillards-là que je soupçonne de pouvoir passer à l'acte, de passer à l'acte. C'est Minority Report. Et il y a un moment où on se dit, mais ça ne peut pas être éternel, effectivement. Je veux dire, ils ne sont pas passés à l'acte.
La loi prévoit que ce n'est pas du tout éternel, hein, puisque c'est six mois, trois mois, renouvelable, trois mois.
La mesure, oui.
Voilà. Et au-delà de six mois, il faut un élément nouveau.
Oui,
donc, je veux dire qu'il y a quand même des garanties.
Non, mais il y a des garanties, bien sûr.
Voilà. Et donc, parce que je vous ai... Le Minority Report, le juge judiciaire, il n'est pas en reste. Parce que lui, il a l'intelligence artificielle au soutien de l'action des policiers ou des gendarmes. Je veux dire que tout ça... Non, mais vous voyez, tout ça, cette justice prédictive, cette justice judiciaire prédictive, non seulement on en parle, mais on y réfléchit. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas que le vilain juge administratif ou faiseur de police
vilain.
Administrative qui vient restreindre... Vous voyez, moi, je prends sa défense, franchement, parce que...
C'est pas du tout une affaire de vilain juge administratif. Ouais. Moi, j'adore plaider dans le juge administratif et je trouve que c'est un juge hyper sérieux. Donc, c'est pas la question. La question, c'est que c'est pas la même culture. Et c'est une affaire de culture.
Ouais, mais nous, on vient prendre la proportionnalité chez vous. Hein. Ce concept-là, non mais c'est vrai, ce concept-là qui s'impose maintenant, on nous dit faites gaffe, la garde à vue, vous la prenez si c'est proportionnel. Je dis c'est quoi ça? Regardez du côté du juge administratif, vous trouverez. Non mais c'est marrant, hein.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, puisqu'on parle de ces mesures privatives de liberté, qu'il faudrait que finalement toutes ces mesures dites de sûreté fassent l'objet d'un contrôle par le juge administratif, puisque d'une part il n'est pas établi que le juge administratif est moins protecteur que le juge judiciaire. Ouais. D'autre part, effectivement, et pour rejoindre ce que disait Mme Vaquet, on a vu effectivement un exemple d'échec du contrôle par le juge judiciaire, au moins par rapport aux ambitions du gouvernement, c'est cette histoire de transformation de la surveillance de sûreté en rétention de sûreté, et le non-respect. Avec une commission composée de magistrats de l'ordre judiciaire qui ont systématiquement refusé d'envoyer en rétention de sûreté, donc montrant le malaise qui était le leur par rapport à cette mesure de sûreté. Donc est-ce que vous pensez que dans le fond, et ce qui rejoindrait cette question du partage entre mesures de police administrative et police judiciaire, on ne devrait pas tout bêtement considérer que la mesure de sûreté, c'est une mesure de police administrative qui relève du contrôle du juge administratif et pas... Et ne réserver finalement le contrôle du juge judiciaire que pour ce qu'on connaît en matière d'hospitalisation, c'est-à-dire à partir d'un certain délai, puisqu'il y a privation de liberté, le juge judiciaire vient dire son mot.
Toutes les mesures de police administrative devraient être soumises au juge administratif, c'est ça l'idée.
Sortir de ce...
Non, mais de toute façon, la dualité des contrôles et la dispersion du contrôle, c'est jamais bon. C'est-à-dire, c'est un principe fondamental qui est que, et d'ailleurs moi, si j'ai un reproche à faire, enfin essentiel à la loi de 2017, c'est l'éclatement justement du contentieux. Sous le régime de l'état d'urgence, il y avait des tas de choses qui fonctionnaient peut-être pas formidablement, mais il y avait au moins une cohérence qui était qu'on avait tout transféré au juge administratif et au moins on connaissait son juge et on savait comment faire. Là, aujourd'hui, on a un contentieux qui est dispersé. Et là, sur la table ronde tout à l'heure, c'était quand même assez frappant. C'est-à-dire que on a tout à coup cette intervention ahurissante du juge de la liberté et de la détention dans un des domaines qui est quand même un des moins graves. Hein. C'est-à-dire que j'ai tendance à considérer que la question de la saisie et de l'exploitation des données informatiques, c'est infiniment moins grave que...
Vous n'êtes pas mélanchoniste, vous.
Hein? Non, je suis pas mélanchoniste.
Non, mais sa personne
n'est
pas sacrée.
Hein. C'est ça, exactement.
Non, c'est
bon, je trouve que c'est infiniment moins grave qu'une mesure individuelle de contrôle et de surveillance. Et c'est pourtant celle-là qu'on a confiée au juge de la liberté de la détention. Mais pour avoir vécu les audiences au Conseil d'État sur le contrôle a priori de l'exploitation des données, honnêtement, je ne me suis jamais senti aussi inutile dans ma vie et aussi, enfin, des audiences aussi vides de sens que là. Et je ne peux pas m'enlever de l'idée qu'il l'a un peu demandé. Voilà. Hein, et que ça arrangeait bien le juge judiciaire de pouvoir récupérer une partie de ce contentieux parce que quand même, malgré tout, il y a eu une espèce de frustration, enfin, d'être complètement retiré comme ça de ce système relatif au contrôle administratif. Mais très clairement, enfin, vous l'avez fait, j'imagine aussi clair, c'était absurde, c'était des audiences absurdes. Des audiences dans lesquelles, grosso modo, on nous disait le juge de premier degré a refusé l'exploitation des données, le ministère de l'Intérieur fait appel, qu'est-ce que vous faites? Évidemment, vous vous opposez pas? Non, je m'oppose pas, parce que si je m'oppose, ça veut dire que mon client a quelque chose à cacher, donc je m'oppose pas. Ça prenait exactement 2 minutes chrono, on sortait et voilà. Il voulait pas exercer ce contrôle, c'était clair.
Ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est qu'en réalité, c'est le partage qui est un petit peu aberrant, effectivement. Parce que, encore une fois, rien n'étant plus têtu qu'un fait, le fait de la séparation des deux juridictions, il existe. Et puis, on n'est pas prêt de revenir en arrière, donc c'est autre chose. Et puis, c'est vrai qu'effectivement, on peut dire, comme vous le dites à juste titre, d'une certaine façon, que certaine concurrence entre les deux, c'est peut-être pas mauvais, dans le fond. Je vais faire mieux que l'autre, là. Je vais être plus protecteur, d'accord. Mais c'est vrai que la répartition, et c'est là où je vous disais, du moins grave jusqu'au plus grave, dans la police elle-même, c'est-à-dire que quand on passe effectivement de la police des funérailles, dans quel quartier de cimetière on va enterrer, ou à la police judiciaire, on pourrait comprendre... C'est plutôt la répartition qui est un peu étonnante. On pourrait comprendre que la notion de liberté... Mais ça, évidemment, encore là, à partir du moment où on dit que la notion de liberté individuelle, c'est uniquement quand on vous enferme entre quatre murs, après, ils font un peu n'importe quoi. Alors que moi, je comprends, et je suis comme François, je trouve plus grave, non pas de m'enfermer entre quatre murs, mais de m'enfermer dans ma chambre, ou dans ma commune, ou dans un périmètre... Je crois que ça peut être la commune, au minimum. Mais la commune, il y en a des petites, il y en a des grandes. Hein. Moi, chez moi, j'habite Locoal-Mindon, c'est très grand, mais Auray, la commune d'Auray, qui est la ville d'à côté, toute petite. Donc, ce n'est pas du tout pareil. Et là-dessus, en me disant, vous allez voir le gentil gendarme ou le gentil policier 2 ou 3 fois par jour, je trouve que c'est plus grave que d'aller effectivement saisir mon ordinateur. Enfin, je veux dire, et c'est exactement l'inverse. Donc, à partir de là, il s'est créé une espèce de répartition qui relève plus du public.
La CEDH s'était prononcée sur les visites et elle ne s'est pas prononcée sur... Donc on essayait de faire quelque chose qui échapperait au contrôle de conventionnalité.
Oui, bien un jour, elle se prononcera peut-être.
Mais tant qu'elle ne l'a pas fait, les mesures sont...
Oui, enfin, je ne sais pas, c'est...
Il y a quelque chose de cosmétique, là.
Oui, c'est ça. Ouais. Bon, alors, vous me direz le JLD. Les ordonnances sur requête. Mon Dieu. Le contrôle de la motivation des ordonnances sur requête. S'il vous plaît, ne recopiez pas la requête. Bon, ça marche une fois, marche une fois tous les 5 ans. On ne sait pas pourquoi. Ce jour-là, il y a un juge à la Cour de cassation qui dit « c'est un peu trop recopié quand même ». Et puis, dans ça, copiez la requête, c'est tout. On sait très bien. Le pauvre JLD, d'ailleurs. Le JLD de Paris, je ne sais pas combien ils sont, mais franchement, ils sont au TGI de Paris, là, dans un étage, là, je ne sais pas quand. Déjà, s'il y a du feu, on ne sait pas comment ils sortent. Et le... Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils ne peuvent pas contrôler. C'est pas vrai. Ils ne contrôlent pas. À la limite, là, je vous rends des armes. Quand on venait référer au Conseil d'État, ils en ont moins, beaucoup moins. Mais du coup, ça, c'est vrai que.
Ah oui, c'est vrai.
On a une heure d'audience ou une heure et demie d'audience où on discute. Non, mais ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Sur le papier, là, il ne signifie rien, votre papier. Votre note blanche est ridicule. J'aimerais avoir quelque chose d'autre. Et de temps en temps, le président se tourne vers Mme l'Église et lui dit: il n'y a pas quelque chose d'autre quand même dans votre dossier? Parce que c'est vrai que.
Voilà. Écoutez, hein. Non, mais je regardais quand même parce que je ne sais pas si nos jeunes étudiants savent exactement ce que c'est qu'une MICAS là, mais je regardais quand même. Attention, hein. C'est L228-1 du Code de la sécurité intérieure. C'est pas non plus. Il faut qu'il y ait des raisons sérieuses de penser que le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité de l'ordre public et qui soit entre en relation le type de manière habituelle avec des personnes, des organisations incitant, facilitant, participant à des actes de terrorisme. Autant dire que ce n'est pas tous les jours non plus. Voilà. Soit soutiennent, diffusent lorsque ces divisions s'accompagnent d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée ou adhèrent à des thèses incitant à la commission, etc. Enfin, je veux dire, ça va.
Oui, sauf que la critique qui a été formulée était de dire, a priori, ce sont des conditions qui permettraient la mise en œuvre d'une procédure judiciaire avec un placement sous contrôle judiciaire. Et alors la question qui resterait à ce moment-là étant uniquement celle du placement sous surveillance électronique mobile, puisque dans le cadre du contrôle judiciaire, on ne pourrait pas.
Dans certains cas, on n'est pas loin de l'apologie. Hein.
Oui. Ouais, enfin, vous avez vu ce qu'on en a fait, quand on l'a détricoté, ce truc. Enfin, il y en a un, il l'a écrit trois fois parce que personne ne voulait l'appliquer. Non, mais je veux dire que... Moi, je trouve que...
La chambre criminelle l'applique de façon très, très large, le délit d'apologie du terrorisme, en ce moment.
D'accord, c'est bon à savoir.
Ouais. Le t-shirt.
D'accord, ouais. OK.
Non, mais là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, les conditions sont restrictives et c'est bien la raison pour laquelle il y a peu de personnes aujourd'hui qui font l'objet de ces mesures. Voilà. Néanmoins, je ne suis pas certain, enfin bon, c'est amusant d'ailleurs, finalement, de plaider à rebours pour la compétence du juge judiciaire, mais je ne suis pas certain que le contrôle qui serait opéré sur les conditions d'application du texte serait le même devant le juge judiciaire. C'est-à-dire que vraiment, ce qui est très, très étonnant devant le juge administratif, c'est que la question de ces conditions-là est moins examinée que la question de la proportionnalité de la mesure, qui est vraiment fondamentalement son type de contrôle. Et ça, c'est gênant.
On dit aussi qu'elle doit être nécessaire et adaptée, même devant nos juridictions administratives.
Oui, mais, ça fait l'objet d'un contrôle de proportionnalité, justement.
C'est peut-être ça, et ce sera peut-être le mot de la fin, puisqu'il est à peu près l'heure. Mais effectivement, on a eu ce matin M. Camus qui nous disait combien il était important de préserver la distinction. On trouve le même propos sous la plume de Christian Vigouroux dans l'ouvrage qu'avait coordonné Marc Toulier sur le code de la sécurité intérieure. Et dans le fond, peut-être, l'intérêt de la distinction est-il là, l'orientation du contrôle qui sera exercé par le juge sur des mesures qui sont prises sur des fondements assez identiques. Voilà. Je vous remercie.